Par le biais d'une enquête, d'un reportage, d'un portrait ou d'une chronique, les journalistes nourrissent d'informations les différents outils de communication, les médias. Mais comment sont sélectionnés les sujets? Qui le décide et dans quel but? Le pouvoir des médias dans le débat public est indéniable, alors leur analyse est primordiale. À travers le regard d'un expert, tentons de questionner l'information pour mieux comprendre notre monde et protéger nos démocraties. Je suis Léo Chrysostome, bienvenue dans Médiascopie.
Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation.
Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon?
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions à New York.
8h, le journal.
On trouve Maryse Burgot en direct de Londres.
That is a lot of fake news back there.
C'est un champ de bataille, le journalisme.
Dans ce nouvel épisode de Médiascopie, Julien Kostrech. Il a été journaliste pour l'émission Riposte, rédacteur en chef de Terra Echo notamment, ou encore directeur des programmes de la chaîne locale Télé Nantes. Il est aujourd'hui directeur de West Media Lab, dont il est le cofondateur. Bonjour Julien Kostrech.
Bonjour.
Je l'ai dit en introduction, en 2012, vous cofondez West Media Lab. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, West Media Lab, c'est un labo des médias. Donc labo, ça veut dire que c'est un endroit qui va servir à la fois de centre de ressources, de boîte à outils pour mener des projets collaboratifs entre les médias et les acteurs du numérique aussi qui peuvent les aider à se développer. Et donc on a fondé ça effectivement il y a une bonne douzaine d'années maintenant avec l'idée de rassembler des médias de toute nature, que ce soit des gros médias ou des plus petits médias comme Alternante, médias associatifs ou des grands groupes, quel que soit leur support initial de diffusion, télé, radio, médias numériques, presse évidemment. Et en se disant que il y avait énormément d'enjeux sur le numérique, de transformation, de développement, d'innovation, et que c'était intéressant de se retrouver, de se regrouper au sein d'une même structure qui est donc une association.
Cette association, elle travaille en particulier avec les médias locaux, les médias de proximité, comme vous les appelez. Pourquoi c'était si important pour vous de travailler avec les médias autour de vous?
Déjà, c'est un choix forcément aussi personnel. Moi, ça correspond à mon parcours. J'ai commencé sur des médias nationaux dans ce métier, mais ça fait maintenant 20 ans que je suis sur Nantes. Je suis arrivé à Nantes au moment de la création de Télé Nantes. Et donc j'ai appris aussi à connaître, à côtoyer les médias locaux, qui sont nombreux, qui sont aussi intéressants, je trouve, que les médias nationaux. Et ensuite, voilà, notre association, elle est basée, implantée à Nantes. Donc on a travaillé au départ, en particulier avec les médias de la région, sur la région Pays de la Loire, et les médias bretons aussi. C'était vraiment sur ce périmètre Grand Ouest qu'on a démarré. Et puis, quand on y réfléchit, il y a plus d'une carte une carte de presse sur deux qui est attribuée à un journaliste qui travaille en région. Nous, on a dénombré plus de 2500 rédactions locales en France. Donc on est un peu dans ce pays focalisé sur les médias nationaux et sur les clivages forts, très marqués maintenant sur les médias nationaux. Mais le paysage médiatique en France, il est d'abord composé de beaucoup de médias locaux, de proximité, à plein d'échelles différentes, du quartier à la ville jusqu'à la région. Et nous, ça nous paraît aussi un maillon essentiel, quoi, de ces médias. Et donc, on a voulu être utile à ces médias-là aussi, en particulier avec notre lab.
Oui, c'est vrai, c'est un choix particulier, un choix fort. Quand vous décidez de lancer ce projet, vous aviez identifié un manque d'interconnaissance entre les médias ou quelle était la philosophie au lancement du projet?
Alors, nous, ce qu'on voyait, alors quand même avec un bémol, c'est que dans l'Ouest, et à Nantes en particulier, les médias ont l'habitude de travailler ensemble. Il y avait des pratiques d'échange, je pense par exemple aux radios qui sont déjà organisées au sein d'une fédération, la FRAP au niveau de la région. Il y a aussi un regroupement des radios nantaises. C'est vrai aussi pour d'autres médias. Les télévisions locales de l'Ouest travaillaient ensemble au sein d'un groupement d'intérêt économique, etc. Donc il y avait déjà ces regroupements, mais ils se faisaient un peu par chapelle ou par support, quoi. Voilà, les radios entre elles, les télés entre elles. Et nous, on se disait que le numérique et les enjeux qu'amenait le numérique obligeait en fait les médias à échanger plus largement et que tous les médias, quel que soit leur support initial, étaient concernés par la transformation du numérique. Donc c'est ça qu'on a voulu aussi amener comme type de discussion et de dynamique avec West Media Lab. Donc quels que soient les supports, de regrouper tous les médias et d'ouvrir aussi. Que ce soit pas seulement un rassemblement professionnel, d'échange, de réflexion, de montage de projets entre professionnels des médias, mais de l'ouvrir aussi en direction des écoles, de l'enseignement supérieur, d'entreprises numériques ou de start-up qui peuvent avoir des solutions pour les médias, de têtes de réseau autour du journalisme ou de la communication. Ce qu'on fait intéresse aussi les médias de collectivité. Et on trouve intéressant voilà, d'avoir ce rassemblement plus large et plus divers pour décloisonner, comme on aime bien le dire à chaque fois, et en se disant que de ce décloisonnement naissent aussi des nouvelles idées, des collaborations. Voilà quel était le principe.
Et depuis 2012, donc, sur notamment cet enjeu du numérique, vous avez dû voir des choses évoluer, des grands bouleversements. Ça a beaucoup changé, j'imagine, en 12 ans. Comment les médias se sont adaptés? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors oui, il y a 12 ans, en fait, quand on se créait, on est à un moment où Internet est déjà bien installé. On voit déjà quel est l'impact, en fait, des plateformes, et je pense notamment à Google et des recherches sur Google qui amènent pas mal de trafic, en fait, Internet aux médias. Donc, il y a tous ces enjeux déjà de référencement sur le moteur pour que, quand les gens font une recherche, en fait, que ça puisse envoyer du trafic vers des médias. On est aussi avec les médias sociaux qui prennent une place de plus en plus importante, et il y avait un enjeu pour les médias de voir comment être présent sur Facebook. C'était beaucoup Facebook il y a 12 ans. Voilà, ça s'est déplacé sur d'autres plateformes aujourd'hui. Et on a aussi, nous, un sujet qu'on s'est beaucoup emparé, c'est à disposition des données, de plus en plus, des données ouvertes, des données publiques notamment, et des outils pour les journalistes pour collecter ces données, les mettre en forme avec une discipline qui se crée il y a une douzaine d'années, qui est le data journalisme, et qui était pour nous tout à fait emblématique en fait de la rencontre qui était nécessaire entre les métiers du journalisme, les métiers d'informatique et les métiers du graphisme ou du design. Et donc on a vraiment s'emparé de ce sujet, et très vite on a monté des ateliers, puis des formations pour accompagner les rédactions sur ces transformations. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire du journalisme présent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça veut dire de faire du data journalisme, par exemple?
Avec West Media Lab, vous créez le Festival de l'Info Locale. C'était la 7e édition en septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce festival, et à qui il s'adresse?
Alors, le Festival de l'Info Locale, comme son nom ne l'indique pas, c'est un festival, évidemment on parle d'information locale, mais c'est un festival d'abord pour les professionnels des médias locaux, et des médias locaux de toute la France, et d'au-delà en fait, hein, parce qu'on a chaque année aussi des médias francophones, européens, belges, suisses, québécois qui participent à ce festival. L'an dernier, on avait à peu près 120 médias différents qui étaient réunis. Et le but, nous, c'est vraiment d'être dans le partage d'expériences. On sert à ça aussi, vraiment, West Media Lab, depuis le début. C'est-à-dire à la fois être en veille, c'est-à-dire pour nous d'être capable de déceler, détecter, repérer des projets innovants, inspirants dans les médias locaux, à tout niveau, hein, que ce soit dans leur développement, dans les formats qu'ils peuvent développer, les formats journalistiques, dans leur modèle économique, dans leur diversification. On a plein de médias, par exemple, aujourd'hui, qui montent des événements pour aller à la rencontre du public ou pour trouver de nouvelles sources de revenus. Donc, on est vraiment sur un secteur qui est en réinvention. Et donc, nous, on repère des projets intéressants, on les partage. Et à l'occasion du festival, on demande aux médias qui mènent ces projets de venir les expliquer. Et comme on aime dire aussi à West Media Lab, de soulever le capot un peu aussi pour expliquer un peu de l'intérieur comment les choses fonctionnent, comment ils ont mis en place leur projet, avec quels moyens, quelles difficultés, quelles réussites, quels enseignements ils peuvent en tirer. Et donc, c'est des temps d'échange où l'ensemble du secteur en fait, va apprendre des réussites et des échecs des médias. Et ça, pour nous, c'est important.
Et donc, vous parliez de repérage. Chaque année, le Festival de l'Info Locale récompense un média de proximité du prix Phil. Cette année, parmi les finalistes du prix Phil, on retrouvait notamment une chaîne YouTube, une newsletter, une chaîne d'information sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça dit du monde médiatique aujourd'hui ? Est-ce que les médias traditionnels sont voués à disparaître ?
Non, ils ne sont pas voués à disparaître. D'ailleurs, sur les nouveaux médias, c'est des médias qui ont moins de 18 mois d'existence, hein, qui postulent au prix du festival de l'info locale. On a aussi régulièrement des médias imprimés. Par exemple, donc voilà, des revues, des magazines. Mais c'est vrai que dans la tendance, il y a aussi une recherche des personnes qui sont à l'origine de ces médias, qui sont souvent encore des journalistes, une recherche de nouveaux supports. Voilà, donc la newsletter en est un. D'avoir, en ce moment là, on a une formation sur les formats vidéo incarnés et qui aide en fait les journalistes à s'inspirer un peu des codes des youtubeurs sans renoncer à l'exigence qui est celle du journalisme, mais dans le ton, dans l'interaction avec le public, d'aller vers cette forme d'animation que réussissent un peu les youtubeurs. Donc on avait effectivement des médias de ce type-là qui ont postulé au dernier prix. Et une autre tendance aussi assez forte que l'on voit, j'en parlais rapidement, c'est des médias qui vont choisir l'événement et la rencontre avec le public comme étant leur principal vecteur, support, donc qui vont aller jusqu'à monter sur scène. On l'a vu notamment à Marseille avec Média Vivant, en Bretagne on a les Trois Ours, hein, qui font ce type de journalisme. Donc c'est du journalisme raconté et expliqué sur scène, et ça permet aussi d'autres formes d'échange avec le public. Ça c'est intéressant. Puis derrière il y a aussi un autre modèle, parce que pour le coup c'est un modèle d'événementiel. Les gens peuvent être mis à contribution financièrement pour participer à l'événement, ou avec un prix libre ou un prix fixe. Tout ça est, je trouve, aussi intéressant sur la façon dont se renouvellent les médias. Ce que ça dit, c'est qu'il y a une recherche, je pense, plus forte de proximité, de liens et d'échanges directs avec le public, de rencontres.
Est-ce que c'est une forme de réponse au ras-le-bol qu'on entend sur les médias en général ? D'ailleurs, il y avait une table ronde qui était organisée autour de ça lors du dernier festival. Est-ce que c'est ça la réponse à ce ras-le-bol chez une part croissante des Français, des médias en général, cette lassitude ?
Je sais pas. Moi, le ras-le-bol des médias en général, alors oui, il est mesuré par des enquêtes annuelles, etc. Et ça existe. Mais je pense que les gens expriment d'abord un ras-le-bol de ce qu'ils perçoivent d'abord des médias, c'est-à-dire l'info en continu, les chaînes d'info, et un ras-le-bol de l'info aussi, et du type d'actualité. Et l'actualité est dure depuis pas mal d'années. Hein, on multiplie les crises, les conflits, etc. Donc derrière ce ras-le-bol, j'entends d'abord ça, quoi. Peut-être une fatigue de l'actu qui est lourde à porter, et d'un certain type de médias, de journalistes qui est le plus visible, le plus perceptible par les Français, quoi. Mais dès qu'on leur demande ce qu'ils pensent des médias locaux, ils sont plus intéressés par la diversité. Ils découvrent aussi des plus petits médias qui suivent pas forcément aujourd'hui, qui ont leur communauté, mais que tout le monde ne suit pas. Et je pense qu'ils se réjouissent plutôt d'avoir en fait cette diversité de médias, de voix. Donc je pense pas que c'est un ras-le-bol généralisé. Il y a une défiance un peu globale comme vis-à-vis des journalistes. Parce que je pense que pendant assez longtemps, voilà, les journalistes étaient un passage obligé, et puis étaient dans un exercice aussi qui n'est pas simple, hein, mais de vulgariser. Enfin, ils ne sont pas experts de tous les sujets, donc de vulgariser des actualités, des sujets parfois complexes. Et voilà, il y a pu avoir une lassitude un peu de ce fonctionnement-là. Et puis Internet a permis au public d'aller directement, finalement, rencontrer, dialoguer avec des gens parfois beaucoup plus experts que les journalistes. Donc maintenant, c'est aux médias, aux journalistes, effectivement, de se repositionner comme des médiateurs, d'être dans l'intermédiation entre le public et d'expliquer que leur rôle aussi, c'est d'organiser le débat avec une diversité de voix et d'avis qui peuvent être contradictoires, de vérifier, de vulgariser et d'expliquer aussi peut-être davantage comment ils travaillent. Ça, c'est aussi une tendance que l'on voit forte depuis 5-6 ans, c'est tout ce travail autour de la transparence de l'info, de la fabrique de l'info, des coulisses de l'information. Les journalistes avaient tendance à se dire « Ouais, non, mais les gens, ça ne les intéresse pas. » Et en plus, on n'a pas le temps pour ça, parce qu'on est toujours pris par l'actualité, et le traitement de l'actualité. Et en fait, il y a un intérêt pour une partie du public, notamment le public qui est amoureux de l'info, qui a envie de s'informer. Il est curieux aussi d'accéder à ces coulisses et de pouvoir dialoguer davantage avec les journalistes.
Julien Kostrech, vous êtes le directeur de West Media Lab, le laboratoire de l'information de proximité. On va revenir plus en détail sur votre parcours et sur le regard que vous portez sur les médias. Mais d'abord, on écoute une chanson dans laquelle un voyageur du futur est confronté chaque heure à un programme d'information toujours plus déprimant. Toute comparaison avec la réalité étant purement fortuite. Voici le groupe britannique Electric Light Orchestra avec Here is the News sur Alternante FM.
Shower. Here is the news. A cure's been found for good old rocket leg. Someone left their life behind in a plastic bag. Action-filled adventure. All of the worst from the world convention.
Vous êtes toujours sur Alternante et vous écoutez Médiascopie, l'émission qui questionne l'information. Je suis toujours en compagnie de Julien Kostrech, directeur de West Media Lab. Julien, au cours de votre carrière, vous avez exercé différents rôles au sein de différentes structures médiatiques, journaliste, rédacteur en chef, directeur des programmes. Vous êtes aujourd'hui directeur de West Media Lab, on le rappelle. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le secteur de l'information ?
Je ne viens pas d'une famille dans laquelle il y a des journalistes, hein, mais par contre, la télé et les infos étaient souvent allumées à la maison. Il y avait des journaux sur la table, dans la cuisine, au petit déjeuner, notamment Ouest France ou le journal des Sables. Moi, je suis originaire des Sables d'Olonne. Donc voilà, j'ai toujours eu ce bain d'informations un peu quotidien et que je percevais, moi, comme une ouverture sur le monde, une manière d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, qui est complexe, qui est de plus en plus mondialisé aussi. Donc voilà, cette curiosité-là, d'abord, je pense, m'intéressait dans le journalisme. Et puis aussi, je pense, comme beaucoup de journalistes, très vite, l'idée de se dire qu'on a la possibilité de donner la voix à des personnes qu'on n'entend pas forcément, d'aller aussi révéler des informations. Voilà, c'est un contre-pouvoir aussi, le journalisme. Il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est quand même un pilier essentiel, quoi, de fonctionnement de notre démocratie. Donc, c'est ce sujet-là qui m'ont animé au départ et qui m'ont amené vers ce métier. Et ensuite, très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait par-dessus tout, quelque part, c'était la possibilité d'avoir un échange dans une rédaction avec d'autres personnes qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas la même expérience, le même regard, et cette confrontation des regards. Et ça, je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément toujours compte, parce qu'ils peuvent avoir l'impression que un média, c'est une seule voix, mais une rédaction, c'est toujours une diversité, en fait, encore une fois, de personnes, de points de vue. Et on s'engueule beaucoup dans les rédactions, les échanges sont parfois vifs. Il faut déjà décider de quel sujet on va traiter, ensuite de quel traitement, quelle importance on va lui donner, quelle hiérarchie, pardon, de l'information on veut mettre en place. Tout ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant.
On parlait tout à l'heure du numérique. À l'heure des réseaux sociaux, tout le monde peut avoir une voix qui porte. J'ai lu une interview dans laquelle vous citez Éric Scherrer, ancien directeur de la stratégie de l'agence France Presse. Alors je vous pose la question qui présentait en couverture de son livre en 2011. A-t-on encore besoin des journalistes ?
Ouais, c'était effectivement le titre de son bouquin qui, moi, m'a vraiment inspiré. Et je remercierai aussi jamais assez Éric Scherrer d'avoir accepté de parrainer West Media Lab à ses débuts, parce que ça nous a mis en lumière aussi, ça nous a apporté du crédit. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à raconter la transformation des médias et la révolution du numérique. Il l'a d'abord fait, enfin, longtemps à l'AFP et ensuite pour France Télévisions. Et je trouve que c'était vraiment, comme il le disait lui-même, un anti-brouillard, quoi, pour essayer de cerner un peu les tendances, les évolutions. Et oui, pour répondre à la question, on a besoin des journalistes sur des fondamentaux, déjà du journalisme, la vérification, l'information. Pour ceux qui considèrent que établir les faits, c'est important, et que si on n'est pas d'accord sur les faits, comment on peut être d'accord ensuite sur le reste ? Comment on peut s'accorder, vivre ensemble, si on ne s'accorde pas sur les mêmes vérités, les mêmes réalités ? Donc, vérifier les faits, c'est, évidemment, hiérarchiser l'information, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on va traiter, mettre en avant, j'en parlais tout à l'heure. Organiser le débat public. Voilà, il n'a pas lieu que dans les médias, mais les médias ont tout leur rôle, toute leur part à prendre. On le voit à chaque élection, dans l'organisation des débats sur les campagnes électorales, faire venir les différents candidats aux élections. Sur des sujets de ce type-là, je pense que le journalisme a toute sa place. Pardon. Après, c'est vrai que c'est... le journalisme est challengé par beaucoup d'acteurs. Les plateformes ont pris une place un peu d'infomédiaire entre le public et les médias, avec les réseaux sociaux, les IA aujourd'hui. Les gens peuvent aller faire une requête sur ChatGPT et puis avoir directement des contenus d'information, pas forcément vérifiés, faut toujours avoir ça en tête, mais qui vont aller puiser dans des contenus qui ont déjà été publiés par des médias.
Justement, sur cette évolution, là, vous parlez des plateformes, de l'IA. Comment vous envisagez le futur ? Comment le monde médiatique peut se structurer à l'avenir ?
C'est une grande question, c'est pas évident d'y répondre, parce que si on regarde 20 ans en arrière, il y a pas mal de choses qu'on ne voyait pas venir voilà, à ce niveau-là. Il y a plusieurs scénarios possibles. Je pense qu'il y a un scénario pour aller vite, hein, où en fait l'IA prend de plus en plus de place et a fini par désintermédier complètement les journalistes. En fait, on peut imaginer que pour s'informer, les gens n'aillent plus directement vers les journaux et se contentent des réponses qui sont apportées par l'IA, par exemple. Et un monde aussi beaucoup plus clivé, où en fait, voilà, on a des médias plus militants, des clivages beaucoup plus forts, et puis peut-être au milieu, bah, des médias généralistes, ou certains diront mainstream, qui se seront un peu affaiblis. Donc voilà, on peut avoir cette vision-là d'un espace médiatique beaucoup plus rude, quelque part, et où les plateformes ont continué à capter une part importante, en fait, de l'audience et de l'argent aussi qu'elles peuvent générer avec les audiences. Et puis, il y a un autre scénario plus optimiste, que moi, j'espère, c'est que on se rende compte aussi voilà, qu'on a besoin de... pour le vivre ensemble, pour qu'on a besoin des médias. Les gens vont rechercher davantage l'information dans des médias. Les journalistes ont fait évoluer leur format, sont peut-être plus à l'écoute du public, on en parlait tout à l'heure, ont appris aussi à développer des récits ou n'ont pas peur de faire une place aussi à l'émotion, parce que des fois, le tout factuel, ça suffit pas. Donc, il faut... voilà, et puis... Et puis, on peut imaginer qu'il y a aussi une régulation qui a été faite des plateformes dans ce monde-là, et puis qu'elles contribuent, et ce serait assez juste aussi, à financer une partie du journalisme, voilà, dont on a besoin. Donc voilà, on verra, je trouve, un entre-deux. Aujourd'hui, il y a des tensions assez fortes, il y a des lignes de fracture, on le voit bien aussi avec, entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, sur les questions de la régulation. Donc je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer, mais ce sera à nous aussi, chaque média, chaque citoyen, de peser sur le cours des choses.
Et à côté de ça, il y a des journalistes de terrain, vous le dites, qui sont la cible d'attaques, de procédures bâillons aussi. On pense notamment à l'emprisonnement du journaliste français Christophe Glaize en Algérie. Qu'est-ce que ça dit du rôle des journalistes dans notre société ?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours rappeler que le journalisme est aussi, et peut-être d'abord, un contre-pouvoir. Là, il y a un problème de procédure judiciaire. On essaie vraiment de faire taire, parce qu'un procès, ça coûte de l'argent, tout simplement, quoi. Donc, il faut avoir les moyens financiers, les réserves pour y faire face. Mais il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est des personnes qui refusent de parler aux journalistes. Alors, quand c'est des personnes publiques, c'est encore plus problématique. Enfin, de quel droit on empêcherait l'accès à une conférence de presse, à des journalistes? Il y a eu un problème ici en Pays de la Loire. Il y a un journaliste de Mediacité qui a été interdit d'accès, en fait, aux délibérations du conseil régional. On a fini par le mettre dans une salle à part. Enfin, c'est absolument pas acceptable, quoi. Voilà, l'exercice du métier doit être libre, encore plus dans un pays démocratique comme le nôtre. Faut le rappeler. Donc, mais il y a des sources qui considèrent que bon, on va pas inviter les journalistes, on va pas faire de conférences de presse, on va même refuser de leur envoyer l'information, parce qu'il y a la tentation aussi avec les médias sociaux notamment, de se dire finalement on n'a plus besoin des médias, allons directement nous exprimer sur les plateformes. Et ça, je pense que c'est, faut rappeler que le journaliste, il va confronter les points de vue, il va vérifier, alors il va pas peut-être dire exactement ce que le service de communication voudrait qu'il dise. Mais ça fait partie non seulement du jeu, mais c'est encore une fois, c'est essentiel.
Il y a quand même des motifs d'espoir. En France, de plus en plus de coopératives médiatiques voient le jour. Cop Média, pour ne citer qu'elle, rassemble plus de 60 médias indépendants. On a reçu le mois dernier le Fonds pour une presse libre dans cette émission, qui finance à la fois des projets de médias indépendants et aussi des procédures juridiques pour aider les médias indépendants à lutter justement contre ces procédures bâillons. Est-ce que tout ça vous donne de l'espoir ?
Évidemment, c'est intéressant de voir que des médias réussissent à mobiliser leur communauté. Après, je pense que ça ne suffira pas. Dans l'économie des médias, aujourd'hui, on considère qu'on a atteint un peu un plafond sur l'abonnement. L'abonnement numérique, c'est évidemment un moyen d'indépendance et de financement des médias, mais tout le monde ne peut pas s'abonner à 2, 3, 4. Donc, il y a un moment où on plafonne en termes d'abonnement. Je pense que voilà, il y a une responsabilité un peu de tous les acteurs qu'il faut rappeler, qu'il faut activer, puis inventer peut-être des nouveaux mécanismes de soutien aux médias.
Merci Julien Kostrech, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à vous d'avoir écouté Médiascopie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, car Médiascopie, c'est le premier samedi de chaque mois sur Alternante FM. Ciao.